tout le monde et bienvenue à l'épisode 17.
Déjà 17,
Gab. Mon Dieu, le Québécois. Bonjour Charles.
Bonjour Gab.
Et cette semaine, il s'en est passé des affaires. Encore une fois. On dirait qu'à chaque semaine, il se passe des affaires complètement ridicules, puis on se dit « My God, faut qu'on en parle ». C'est comme une petite thérapie, c'est rendu. On va commencer par la controverse qui entoure mes chaussures préférées.
Ah, mais avant d'aller, juste un petit retour sur l'épisode 16.
Ah oui?
Parce que, comme vous avez pu vous-même le constater, il n'y a eu aucune couverture médiatique à l'occasion de la Journée internationale de l'homme, le 19 novembre dernier. En fait, Trudeau est même jusqu'à pousser son audace et inviter les hommes à s'occuper de la violence faite aux femmes et à prendre ça en charge. C'est comme, d'accord, mais peut-on faire un... Lui qui fait des statements puis des publications Facebook pour littéralement toutes les fêtes culturelles de toutes les différentes déclinaisons possibles. Je me serais attendu à ce qu'il fasse au moins un commentaire sur la Journée internationale de l'homme.
C'est vrai. Hein.
Mais non, son silence était très parlant.
Oui. En fait, on n'en a pas entendu parler nulle part. J'ai fait exprès. Là. J'ai regardé un œil ouvert la semaine dernière. Puis, il n'y avait rien. Il n'a pas parlé de ça nulle part. Fait que, on avait raison. On va espérer que... On va commencer un petit vent de changement, puis on aura sûrement la chance de vous en parler encore l'année prochaine, au 19 novembre.
Puis pendant ce temps-là, il y a l'Association canadienne pour l'égalité qui essaie d'ouvrir un premier refuge pour hommes victimes de violences dans la région de Toronto. Donc ils font une levée de fonds, là, ça vous intéresse, vous pouvez aller sur leur site internet. Donc on mettra le lien dans le podcast.
C'est intéressant ça, on va leur souhaiter bonne chance. Donc comme je disais... Controverse autour de mes chaussures préférées, Adidas. Controverse un peu inventée, là, selon moi. Moi, mon opinion, puis là, on va pas passer une éternité à en discuter, parce que je pense que la plupart de nos auditeurs vont savoir où on se place par rapport à ça. Tempête dans un verre d'eau, t'as qu'à moi, là. Parce que je comprends pas comment on peut s'attendre que quelqu'un qui vient pas de la place peut être... au courant de toutes les nuances politiques qui existent dans une localité. Là. T'sais, le gars, il est probablement arrivé ici pour une heure ou deux, le temps de faire son allocution, puis qu'il est reparti chez lui. Là. Fait que, ben oui, c'est mal exprimé. Moi, je vois ça comme ça. Le gars, il a utilisé le mauvais vocabulaire, puis on en parle encore une semaine plus tard.
Ben, c'est vrai que je pense que le problème principal avec ça, c'est qu'il a pensé un peu à voix haute. Il aurait dû se dire dans sa tête « je vais dire des mots en français », mais au lieu de le dire « je vais dire des mots en français », il aurait juste dû les dire, sans préciser que c'était pour accommoder, parce que sinon ça sonnait un peu indélicat de sa part.
Oui, c'était exactement ça. Puis je suis un peu découragé en fait par la place médiatique que ça a pris. Le Journal de Montréal, j'ai l'impression qu'il était parti pour la gloire. Là, c'était tous les 5 minutes, j'avais l'impression que j'avais un nouvel article là-dessus qui passait sur mon Facebook. J'ai été déçu, plus que d'habitude, je te dirais, par les commentaires des gens au bas des articles. Tout le monde avait l'air révolté. Là. Hey, premièrement, Adidas, c'est quoi, là? C'est une compagnie allemande? En tout cas, quelque part là-dedans, là, dans l'Europe. Fait que ce sont même pas des Américains... c'est sûr que peut-être localement, les gestionnaires auraient pu se forcer un peu là, pour apprendre le contexte culturel, mais franchement, là, moi je sais pas, il y a peut-être quelque chose que je catche pas là-dedans, mais même après avoir lu le texte d'opinion de Joseph Facal, là, qui parle de la négritude de l'Amérique du Nord, qu'on est rendu les nègres blancs de l'Amérique, give me a break. On peut-tu se calmer, là? On parle de chaussures de luxe, OK? C'est pas un bien essentiel, là. Il est pas arrivé pour ouvrir l'hôpital, la nouvelle hôpital, puis qui a agressé tout le monde en français, là. C'était pas ça, là. OK? C'est un magasin sur la rue Sainte-Catherine, en passant dans le secteur le plus anglophone du Québec, là. On peut facilement dire ça. Fait que, tu sais, Puis à l'intérieur du magasin, toutes les règles de l'OQLF sont respectées, les enseignes sont en français, le monde te sert en français. Quand on peut-tu se calmer? Suis-tu tanné d'entendre parler de ça? Puis c'est ça qui m'énervait dans les commentaires que je voyais en bas de l'article. Tout le monde dit qu'au centre-ville de Montréal, tout le monde parle anglais. OK, oui, fine. Il y a plus d'anglais au centre-ville de Montréal, mais c'est normal. C'est une métropole. Il y a plus de latinos aussi, il y a plus d'espagnols, il y a plus de russes, il y a plus d'arabes. C'est clair. Mais c'est comme ça dans toutes les villes du monde. OK, même à Paris, il y a du monde qui parle en anglais dans les rues. Fait que je vois pas le problème. Puis les gens qui disent que c'est impossible de se faire servir en français dans le centre-ville, même le tweet de président de la Société Saint-Jean-Baptiste dans un reportage de Radio-Canada a été forcé d'obliger que tout le monde y pouvait y parler en français. Fait que s'il vous plaît, là, on se calme. Ici, il n'y en a pas de problème, ça va bien, il n'y a pas plus ou moins de français puis d'anglais puis de machin qu'il y en avait la semaine passée à Montréal. Calmez-vous. Pour l'amour du Saint-Ciel, là, il ne s'est rien passé. Allez acheter vos souliers pareil. Pas tout le monde qui chiale, qui dit qu'ils vont boycotter Adidas. Laissez-moi vous dire, là, si vous aviez des souliers d'Adidas, vous trouveriez peut-être ça difficile de les boycotter parce qu'ils sont mauditement bons. Mais moi, je ne les boycotterai pas.
C'est-à-dire que, soulevant un bon point, que ça prenait énormément de place. Puis, je trouve ça fort regrettable parce que chaque fois qu'une controverse, on va dire, comme ça, survient, ça prend vraiment toute la place et ça nous empêche ensuite de parler de d'autres sujets.
Ben oui.
Il y en a eu des sujets cette semaine. Là. Il y en a eu plusieurs. On va y revenir tantôt. Là, entre autres, ce qui s'est passé à l'université Wilfrid Laurier.
Ouais.
Le Canada anglais parle de... Peut-être que je vais commencer à les mettre, là, mais moi, je suis la compagnie Influence Communication qui fait le palmarès des sujets chauds au Québec puis dans le reste du Canada, dans le monde.
Mm-hmm.
Et le Québec est toujours dans une petite classe à part, et dès qu'il y a une controverse de nature linguistique, les gens grimpent dans les rideaux, et ça crée un genre de trou noir médiatique où il n'y a plus rien d'autre qui passe.
Ouais. Mais c'est une façon de nous garder encore plus insulaires. Quand on continue à parler de ces trucs-là, mais là, il n'y a pas de place pour s'informer des sujets qui sont importants sur le reste de la planète. Fait que tant et aussi longtemps qu'on est replié sur nous-mêmes puis qu'on se chicane pour des affaires qui sont même pas là, ben ça nous fait une belle petite distraction puis on peut pas se concentrer sur la réalité du reste du monde.
De toute façon, peut-être qu'on aura l'occasion de faire un épisode là-dessus, mais la communauté anglophone à Montréal a quand même... Elle l'a pas facile depuis les années 60, là. Disons qu'il y a un sondage qui est paru justement la semaine dernière qui montrait que la communauté anglophone avait pas un fort sentiment d'appartenance avec le Québec. Mais ça s'explique par le fait que chaque fois qu'il se passe de quoi, ben, l'anglais est toujours démonisé. De la même façon que les hommes sont toujours démonisés par les féministes. Quelqu'un qui parle anglais n'est pas une mauvaise personne. C'est pas la fin du monde. Quelqu'un qui parle en anglais, quelqu'un qui parle en français, ça me dérange pas. Ce qu'il faut, c'est que les gens soient libres de le faire.
Ben oui.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté. C'est pas mal ça, mon cheval de bataille. Si c'est important pour les gens, là, c'est vraiment important pour eux. Ben, ils iront pas chez Adidas, puis ils iront ailleurs. Ben, c'est la beauté d'un marché libre, là, c'est que les gens peuvent faire voter leurs idées par leur portefeuille. Ils vont aller dans un commerce avec lequel ils vont vouloir faire affaire, puis ça va finir là.
Puis en passant, chez Adidas, c'est toi qui me disais ça tantôt, Charles. On est la fin de semaine du Vendredi fou, là. Puis ils ont épuisé leur stock. Fait que ça, clairement, là, le boycott n'a pas marché.
Mais non, parce que les gens veulent des produits à bon prix.
Ben oui.
Ça finit là.
Puis c'est des bons produits en plus, OK? Fait que. En tout cas, moi, je suis écœuré de ça. Puis j'aimerais tout ça qu'on puisse parler de ces affaires-là avec un petit peu moins de se faire passer pour des victimes. Puis c'est ça que je vois comme étant le problème. Comment ça se fait qu'une petite phrase conne peut lancer toute la province dans un espèce de débat immesurable? Comment ça se fait? Je pense qu'on aime ça, là. Il y a quelque chose qui fait qu'en fait, que la société québécoise aime beaucoup ça, se faire martyriser ou se faire passer par des martyrs à chaque fois qu'il y a une phrase qui a été dite qui est un petit peu... qui peut être interprétée un petit peu... on aime ça de se faire passer pour décoloniser en bout de ligne. Moi, je pense que c'est ça, l'affaire. Ça donne du... du pouvoir au PQ, ça donne du pouvoir à la Société Saint-Jean-Baptiste. Il y a toutes sortes de groupes puis de gens qui... Ça alimente le feu de qu'est-ce qu'ils veulent, eux, ils veulent faire quand ils sont capables de prendre ces événements-là puis de l'utiliser pour faire valoir leurs points. Parce que tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas capables de sortir ce genre d'exemple-là, ben, ils n'auront plus d'existence. Là, okay? Ils n'auront plus de raison d'être. Il faut qu'ils nous trouvent des raisons pour continuer à se faire subventionner puis continuer à faire valoir leurs points. OK? Fait que moi, je pense que c'est surtout ça là, qui se passe, puis qu'en réalité, il n'y a rien à voir. Là. Il ne se passe rien.
Ce que je trouve intéressant dans le contexte, c'est que c'est le 60e anniversaire cette année des États généraux de la francophonie qui se sont tenus à Montréal en 1967. Et c'est pas mal à partir de ce moment-là que le Québec a entamé sa croisade contre les francophones hors Québec. on l'avait mentionné dans un épisode précédent sur la langue française. Ça a fait bien réagir nos auditeurs, mais la réalité, c'est que le Québec s'est présenté à 3 reprises en Cour suprême pour se battre contre les droits linguistiques des francophones hors du Québec, parce que ça ferait en sorte qu'ils pourraient s'en servir, que la minorité anglophone du Québec pourrait s'en servir aussi.
Ouais. Grosso modo, c'est plus important d'empêcher les Anglais de parler anglais au Québec que les francophones de parler français à l'extérieur du Québec.
Ouais. Et c'est pour ça, au fond, que c'est c'est une dérive nationaliste québécoise. C'est un mouvement identitaire, d'abord et avant tout. Ça n'a rien à voir avec la langue. C'est une question, je dirais pas d'ethnie, mais presque. Ça s'en vient vers ça beaucoup. Et c'est un petit peu ce qu'on reproche souvent au PQ de façon plus générale. Là, c'est d'être très centré sur leur identité nationale.
C'est du nationalisme.
Et ça, c'est encore une fois, on y revient souvent, c'est une forme de collectivisme, mais... Ça fait en sorte qu'on érige un groupe contre un autre groupe, indépendamment des considérations sur le plan individuel.
Ouais.
Donc, ça ne peut être que répréhensible et ne produire que des conséquences dommageables à long terme. Et si en 1967, on avait plutôt fait le choix de promouvoir le français à travers le Canada et que la survie du français ne passait pas seulement par la souveraineté, peut-être qu'on aurait un portrait différent aujourd'hui.
C'est clair que ça serait différent. Parce que si tu regardes le Nouveau-Brunswick, qui a pris une approche complètement opposée à celle du Québec. Au Nouveau-Brunswick, les lois dictent largement... en fait, ce que les lois disent, c'est quand le besoin est là, il faut donner le service en français. Puis là, je te parle des services gouvernementaux. Donc, au Nouveau-Brunswick, tu as le droit d'avoir toutes tes affaires en français. Là où ça a du bon sens. On n'installera pas là, un bureau de service bilingue à Woodstock parce qu'il n'y a pas de personnes francophones à Woodstock. Fait que, puis le Nouveau-Brunswick, c'est un peu comme Montréal. C'est divisé en deux. Tu as l'Est puis l'Ouest. Puis tu peux tracer une ligne là, en diagonale qui part du Nord-Ouest jusqu'au Sud-Est. Puis ça divise pas mal la province de façon linguistique. Fait que, grosso modo, tes services sont répandus où tu as besoin. Puis la raison pourquoi ça fonctionne, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, on accepte que ça se peut, quand tu vas à l'Ouest, qu'il n'y ait peut-être pas des services en français parce que tu es tout seul. Puis à l'Ouest, ben, c'est la même affaire. Les anglophones, quand ils viennent dans mon village où je suis né, là, ça ne tente pas de se faire servir en anglais par la police. Okay? C'est juste de même. Fait que le gouvernement a pris une approche de promotion de la langue. Puis ce que ça a donné, là, puis moi je le sais, je l'ai vu, je l'ai vécu, dans les dernières 30 ans, la culture acadienne n'a jamais été aussi forte qu'elle l'est maintenant. On a des institutions qui n'existaient pas il y a 50 ans. Des universités, il n'y en avait pas. Des troupes de théâtre, des radios communautaires. La scène musicale n'a jamais été aussi grande qu'elle est maintenant. Mais il n'y a aucune loi qui oblige personne de rien faire. Par contre, le monde sont encouragés, puis il y a une grosse portion d'anglophones au Nouveau-Brunswick qui envoient leurs enfants soit des écoles francophones, soit des écoles d'immersion par choix, parce qu'au Nouveau-Brunswick, on donne le choix aux gens. T'envoies. Si tu veux aller à une école francophone, pas de problème, on va t'en trouver une. Donc, ça fait un climat beaucoup plus harmonieux qu'au Québec, où ce qu'on est tout est légiféré, puis que ça met les deux communautés en conflit. Moi, je pense que c'était un des problèmes qu'on a, c'est que justement, cette approche-là, ça a fait qu'on a créé un conflit qui n'existait pas jusqu'à ce temps-là.
C'est-à-dire que ça met en compétition des gens qui devraient plutôt chercher à collaborer.
Ben oui.
Donc, vous avez un enfant, vous voulez l'envoyer à l'école anglaise pour qu'il puisse être bilingue. Puis être bilingue, là, ça n'a que des avantages. Ça veut pas dire que tu vas renier ta culture, ça veut pas dire que tu vas renier ta langue. Ça veut juste dire que tu vas apprendre à en parler une deuxième. Oui. Ça donne que, puis, durant l'enfance...
Ça n'a pas juste des avantages économiques. Là. Il y a des avantages au point de vue de développement intellectuel,
oui.
Pour prévenir l'Alzheimer. Il y a toutes sortes de choses qui...
Il y a juste des avantages de parler deux langues.
Il y a juste des avantages.
Mais présentement, au Québec, si vous avez deux parents francophones, ils ne peuvent pas envoyer leur enfant à l'école publique en anglophone.
Mais non.
Ça, pour moi, c'est une atteinte à leur liberté fondamentale de choisir ce qui est mieux pour leur enfant. Alors que, bon, les anglophones ont un droit acquis, mais s'ils envoient leurs enfants à l'école francophone pour les amener à parler en français, ben là, je pense qu'au bout de deux générations, ils perdent leur droit acquis. Je dis, on peut-tu laisser les gens libres de choisir la meilleure école pour leur enfant?
Ouais.
Si ça donne qu'il y a une école qui a un programme spécifique qui convient parfaitement à leur enfant qui a des besoins particuliers, puis ça donne que c'est en anglais ou en français, mais pourquoi est-ce que la langue à la naissance devrait changer quoi que ce soit à leur capacité d'accéder à ce service-là? Ce qu'il faut, c'est donner aux gens envie de parler une langue.
Ouais.
Je pense pas que c'est avec des discours acrimonieux puis vindicatifs que tu crées une image positive pour ta culture.
Pas en tout. Il y a personne qui aime ça de se faire forcer quoi que ce soit.
Dans le reste du Canada, là, la couverture médiatique de cette histoire-là, c'était bon encore, les Québécois qui sont fâchés pour une question linguistique. Ils ne nous prennent pas au sérieux parce que c'est vrai que c'est pas sérieux.
Ah oui, mais c'est pas sérieux du tout.
C'est disproportionné.
Moi, je te dis, là, quand j'habitais au Nouveau-Brunswick puis que je voyais ce genre de reportage-là sortir du Québec, on se roulait les yeux bien profondément dans la tête pour dire « Mais de quoi ce qui chiale? » Parce que d'un point de vue de francophone extérieur du Québec, j'arrivais pas à comprendre c'était quoi le problème. Puis là, ça fait 20 ans que j'habite à Montréal, puis je ne comprends toujours pas c'est quoi le problème. Je le vois pas.
Ah oui, je me suis promené pas mal aussi à travers le Canada, puis même dans le reste du Canada, les provinces qui sont quasiment à 100% anglais, de langue maternelle, je me fais régulièrement servir en français, parce que les gens, ils voient un client francophone, des fois l'accent, ça pardonne pas.
Ben oui.
Et il tire une fierté à me servir en français. Puis je suis comme, oui, c'est ça qu'il faut.
Moi, ça m'a surpris. Plusieurs fois, j'ai été surpris. Puis on réalise pas à quel point il y a beaucoup de gens pour qui, puis là, je te parle des anglophones, là, pour qui c'est une fierté d'être capable de parler français. Puis c'est sûr qu'il y en a que ça les énerve. Mais moi, je dis, il y en a une crise de gang du côté des Québécois que ça énerve de parler en anglais.
Ben oui. Mais au final, l'attention démesurée qu'on accorde aux enjeux linguistiques au Québec font en sorte qu'on n'a pas parlé la semaine dernière de ce qui s'est passé à l'Université Wilfrid Laurier.
Ouais, puis c'est important qu'on en parle.
Et tabarouette, moi, ça me préoccupe, là. J'étais hors de moi la semaine passée. À chaque jour, il y avait des articles publiés dans les quotidiens du reste du Canada, puis il n'y en a pas eu un au Québec. Le premier dans la presse du samedi.
Ouais.
C'était le premier. Ça leur a pris 6 jours avant de se réveiller.
Ouais.
6 jours. Une semaine. Dans le monde médiatique, 6 jours, là, c'est une éternité. Ouais. Le scoop était déjà passé.
Mais surtout maintenant. Maintenant, un scoop, ça dure 15 minutes. Le temps d'avoir tes clics sur Facebook, c'est fini, là, il n'y en a plus.
Ouais. Durant l'histoire, il y avait eu le temps d'annoncer le problème. Les parties avaient eu le temps de se rétracter ensuite. Et c'était tout simplement réglé. Et finalement, la presse a écrit un article là-dessus. Il n'y avait rien non plus du diffuseur public, qui est pourtant payé par nos impôts pour fournir de l'information. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu parler, parce que c'est fondamental pour l'indépendance des universités. On va parler du cas de l'Université Wilfrid Laurier à Waterloo, en Ontario. Il y a une jeune assistante de cours, là, une étudiante à la maîtrise, Lindsay Shepherd, qui a fait jouer un court clip de près 5 minutes, là, ben, du moins un extrait de 5 minutes, d'un débat télévisé qui était survenu l'année dernière à TVO, à l'émission The Agenda. Une émission d'affaires publiques tout à fait respectable. Donc, on a joué un court extrait qui opposait Jordan Peterson, le professeur en psychologie de l'Université de Toronto, à 3 autres personnes qui étaient, au fond, contre sa position. relativement au projet de loi C-16 qui est passé au Canada, je pense au mois d'août ou au mois de septembre dans
Ça
ce
fait pas
coin-là.
longtemps.
C'est tout à fait récent. Le Sénat, je pense, l'a fait passer au mois de juin, puis c'est devenu une loi à la rentrée parlementaire. Donc cet extrait-là, dans un cours de médias et communication, a été jugé comme étant inacceptable par le titulaire du cours. Et Mme Shepherd a été rencontrée, je précise, âgée de 22 ans, elle vient tout juste de commencer, hein. Elle a été rencontrée dans une rencontre disciplinaire face à deux personnes, peut-être même trois, je me souviens bien, mais bon, au moins deux.
Moi, j'en ai juste entendu deux dans l'extrait que j'ai écouté,
Je
là,
pense que
fait
c'est deux, mais
que...
peut-être qu'il pouvait y avoir une troisième à un moment donné, mais je pense que c'est juste deux. Donc, toujours est-il que c'était quand même une rencontre. L'extrait est disponible parce qu'elle s'est enregistrée, elle a eu la présence d'esprit d'enregistrer tout ce qui s'est passé. Et c'est la seule raison pour laquelle l'université s'est rétractée.
Vive les iPhones.
Donc, le point maintenant, c'est que dans le milieu universitaire, largement corrompu sous le plan idéologique, vous devez tout enregistrer ce qui se passe parce que c'est votre seul mécanisme de protection.
Ben, moi, je dirais pas juste à l'université, mais...
Bon, en général, là, c'est un bon mécanisme de protection parce que on va le mettre en dessous du podcast. C'est 45 minutes et c'est douloureux à écouter. La quantité de bêtises qu'ils se disent là-dedans. Juste pour vous donner une idée, là, Jordan Peterson, là, c'est un probablement nos meilleurs chercheurs en psychologie au Canada. C'est. Puis on peut mesurer quantitativement l'influence d'un chercheur par le nombre de citations dans les revues scientifiques. Jordan Peterson est en haut, il est quasiment rendu à 9000 citations. Ça veut dire là, que ses travaux ont directement influencé 9000 autres publications dans le milieu scientifique de la psychologie, particulièrement de la personnalité. Il a enseigné à Harvard pendant 10 ans, il a investi à Toronto depuis le début des années 90. C'est un homme très respectable, qui fait beaucoup de recherches, puis que des positions sont toutes très nuancées. Il a pris position sur ses 16, peut-être qu'on pourra l'occasion d'y revenir plus en détail, mais ça n'enlève rien au fait que quand il s'exprime sur les sujets, c'est à titre d'expert, c'est pas des opinions infondées. Et dans l'entrevue, si vous allez l'écouter, il suggère, puis ça vient d'un la personne en face de Mme Shepherd, a à peu près une cinquantaine de citations dans ses travaux, donc c'est un chercheur de nettement moins grande envergure et qui soutient que Peterson, ce ne sont que des opinions, qu'il n'y a pas de fondement dans la littérature scientifique. C'était aberrant. C'est complètement aberrant. Il est même allé jusqu'à le comparer à Hitler. C'est vraiment très disgracieux comme discours. Et tout ça était. Moi, je vois ça comme une forme de bullying professionnel. Lindsay Shepherd était face à deux personnes en position d'autorité qui, tout en pratique, la menaçaient de sanctions disciplinaires parce qu'elle a osé, dans un cours de médias et communication, présenter un court extrait d'un débat qui a été présenté à la télévision publique. Il semble qu'il y a bien une place qu'on devrait pouvoir discuter de ces idées-là, c'est bien l'université. S'il y a bien un endroit là où on devrait pouvoir attaquer des idées, les décortiquer, c'est là.
Ouais, puis ce qui était déplorable dans l'enregistrement qu'elle a fait durant sa conversation avec ses supérieurs, c'est qu'eux autres, ils disaient que les étudiants étaient trop jeunes pour participer à
Ben
ce
oui.
genre de discussion-là. J'ai tellement trouvé ça drôle. Parce que je me suis rappelé c'était quoi, tu sais, mes premières années à l'université, puis les genres de discussions qu'on avait. Moi, je pense que c'est le contraire. C'est le moment d'avoir ces discussions-là. Faut apprendre à être capable de discuter, puis écouter, puis entendre des arguments, puis être capable de décider c'est lesquels qui est de la bullshit, puis lesquels qui sont sérieux. C'est justement à 18 ans, avant qu'il soit trop tard. Une fois rendu à 30 ans, 30, 40, 50, si t'as pas appris à t'ostiner comme du monde, puis à comprendre ce qui se passe autour de toi, il va être trop tard. À un moment donné, ton cerveau, il est plus assez malléable, puis c'est fini. C'est fini.
Ouais, c'est sûr que le processus de cristallisation du cerveau, c'est
Ben,
une course contre la montre.
c'est ça.
Mais c'est ça, c'est qu'il parlait des étudiants universitaires comme ça, des enfants de 5 ans.
Pente. Regarde, je veux bien croire là, que les millennials sont peut-être plus bébés, maman, papa, qu'il y a certaines générations à certains égards, là, mais je suis sûr qu'ils sont capables de discuter dans une classe d'université.
Oui, ben, c'est-à-dire que c'est souhaitable qu'on puisse.
Ben oui.
Surtout dans les sciences humaines, les sciences sociales, c'est des disciplines qui ont plus difficilement d'application pratique dans le milieu du travail, mais ils sont pas moins utiles. Au contraire, ils te forgent l'esprit, t'amènent à être capable d'articuler des idées complexes, et ça peut ultimement servir sur le plan professionnel. Mais le problème dans cette histoire-là, c'est qu'on a eu un bon exemple de censure universitaire à Waterloo, mais je vous confirme que ça a lieu ici, ici aussi, au Québec. Il y avait l'émission Un corde sensible à Radio-Canada qui avait fait une sorte de petite expérience sociale où il avait été mettre des tracts de, disons, de position de droite sur des babillards à l'UQAM, puis des tracts de position de gauche à l'UQAM. Celle de droite était systématiquement enlevée. Mm-hmm. Il y a une censure, il y a un biais pro-gauchiste qui vient envahir le milieu universitaire de plus en plus. Les milieux plus scientifiques, là, toutes les sciences de la nature est moins affectée, mais les sciences humaines présentement,
je sais
là,
pas si c'est de
les
gros plus biais. En plus. Moi, je me souviens quand j'étais à l'université au début, dans la début années 90, c'était toujours pro-gauchiste. Ça n'a jamais été bien vu à l'université d'être à la droite. Moi, même dans ce temps-là, je trouvais que c'était très gauchiste. Tu sais, l'université Beckerley, puis les hippies, puis tu sais...
Oui, je dirais que ça s'est exacerbé depuis, mettons, 30 ans.
Ouais, peut-être.
Ça s'est exacerbé, surtout quand on regarde, mettons, la proportion de professeurs, disons, plus de droite versus plus de gauche. Mm-hmm. Maintenant, ça existe à peu près plus, les profs de droite, maintenant, à l'université.
Je sais pas si je peux dire ça. Moi, je sais que j'ai des amis qui sont professeurs à l'université. D'ailleurs, à l'Université de Montréal, à l'Université Emory aux États-Unis. Puis, particulièrement, un de mes amis, qui m'a raconté, c'est que lui, il est toujours surpris quand il rencontre des professeurs qui sont pas à gauche. Il me dit qu'ils existent. Mon ami est carrément à gauche. Là. Il fait que pour lui, il trouve toujours ça très surprenant quand ses collègues sortent avec des histoires, surtout de chrétiens, puis des trucs vraiment à droite. Là. Fait que ça existe. Est-ce qu'ils ont la liberté de s'exprimer? Je sais pas. Ça, c'est,
Ben, c'est justement un petit peu ça. C'est que l'année dernière, il y avait toute la controverse avec Jordan Peterson qui a fait son audience devant le comité sénatorial qui devait évaluer... Le comité parlementaire qui devait évaluer le projet de loi C-16. Et le projet de loi C-16, là, pour faire une histoire courte, ça vient...
On n'est pas bon à faire des
histoires. Non, on n'est pas bon. ça vient ajouter des dispositions au code criminel puis à la charte des droits et libertés pour inclure les motifs de discrimination envers l'expression sexuelle puis l'identité sexuelle en plus de toutes les autres qu'on connaît déjà. Comme par exemple, le sexe, la race, être handicapé ou non. Bon, tous les facteurs qu'on connaît déjà, ils en ont rajouté deux autres, qui est l'expression puis l'identité. Et en soi, ça ne posait pas nécessairement problème, mais c'est dans la façon dont la loi avait été écrite que Peterson avait des problèmes. Il s'est présenté à la commission parlementaire pour faire valoir son point. Aucune de ces recommandations n'a été retenue. Malheureusement, je dirais ça, c'est mon biais personnel, mais je trouve qu'il y avait quand même de solides bons points. Parce qu'au Canada, ce projet de loi-là, et d'ailleurs d'autres projets de loi de Justin Trudeau, s'inscrivent un peu en rupture de continuité par rapport à ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Ce projet de loi-là, C-16, fait en sorte que ce serait une offense potentiellement criminelle que de se tromper de genre ou de refuser d'utiliser un pronom particulier envers une personne. Comme par exemple, c'est surtout sur la question des gens trans. Mm-hmm. Une personne pourrait dire « Moi, je suis... » Puis c'est pas juste une question de dire, mettons, une personne trans, mettons, une femme trans, même si elle était née homme, ben maintenant, aujourd'hui, elle sera... c'est une femme. Et d'utiliser « elle », par exemple. Mais c'est aussi toutes les gens qui s'arrêtent entre les deux. Et présentement, là, mettons, en Alton, New York, 21 genres qui ont été reconnus avec une multiplicité de pronoms, comme en anglais, il y a « zeezer », »,« zim », en français, il y a « ceux », »,« celles », »,« ils ». Ça n'en finit plus. Et le problème avec toute cette histoire-là, c'est que c'est, à toute fin pratique, criminel de refuser d'utiliser des mots que d'autres nous imposent. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant comme concept, parce que jusqu'à maintenant, dans le code criminel, c'était toujours des obligations de ne pas faire. Tue pas les autres, vole pas les autres, diffame-les pas. C'est toujours des obligations de ne pas faire. Alors que là, c'est une obligation de faire quelque chose. Tu dois utiliser un langage prescrit qui vient d'en haut. Les mots, là, on le voit, à chaque année, ils ajoutent des mots dans le dictionnaire, puis souvent, ça amène à des affaires assez comiques, là. Mais les mots, les gens s'approprient les mots de façon organique. Quand un mot devient populaire, quand un mot est utile, les gens, ils se l'approprient, puis commencent à l'utiliser, ça entre dans le parler courant, puis à un moment donné, ça rentre dans le dictionnaire, parce qu'ils se disent « Bon, ben, c'est un mot maintenant! » Tous les pronoms, là, il y en a eu des dizaines de pronoms qui ont été inventés. Pas un dans le langage courant. Bon, il y a peut-être « il » au pluriel, « elle » au pluriel, là, qui est un peu plus répandu, mais toutes les autres sont complètement inconnus du public. Et là, on fait en sorte que ce serait potentiellement une offense criminelle que de pas toutes les connaître puis de se tromper ou de refuser de les utiliser parce qu'ils sont largement motivés par des idéologues politiques. C'est très préoccupant. Et Peterson, dans son allocution, mettait en garde le gouvernement face à des dérives où on utiliserait ce genre d'article-là pour restreindre la liberté d'expression des autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'université Wilfrid Laurier à Waterloo. Il avait raison, hein, tout d'un pratique, c'est ce qui s'est passé. À moins que j'ai des auditeurs qui ne sont pas d'accord, expliquez-moi, parce que selon ma lecture de la situation, on a une personne qui a voulu présenter, peut-être qu'on pourrait faire jouer l'extrait.
Oui.
Elle a fait jouer un extrait du débat qui avait eu lieu l'année dernière entre Jordan Peterson et des opposants. Débat très cordial, très civilisé, très académique, je dirais. Et ça, c'était considéré... Le simple fait que de parler de ce sujet-là était perçu comme un acte haineux.
Bon, ben on va l'écouter, là. Question de savoir exactement c'était quoi qui était si pire que ça, là, dans cet extrait-là.
You've heard what the professor has to say. What's your response?
Well, I don't understand what the claim that there's no such thing as biological sex means. And I certainly think it's, let's call it an error to suggest that there's some sort of scientific consensus about that. I mean, there's biological differences between males and females in animals and human beings at every level of analysis
Okay, I'm jumping in here. Yeah? Because what about the notion he put forward at the end there, that if you do not refer to people with the pronoun that they prefer to be referred to, that is a form, according to the Human Rights Commission, of discrimination.
It's not just a form of discrimination, it's a form of hate speech. That's why I made the video. I said that we were in danger of placing the refusal to use certain kinds of language into the same category as Holocaust denial, and suggested that maybe that wasn't such a good idea, especially since there's plenty of debate to be had about gender issues in our society, which I also think are also in danger of becoming illegal, and quite rapidly. So it isn't clear to me how long we'll be able to have the talk that we're having right now.
C'est un discours qui, à mon avis, est assez nuancé, puis qu'on ouais. peut débattre de cette question-là, mais...
En fait, c'est une mise en garde plus qu'autre chose.
Oui.
Calmez-vous, là, ça peut dépasser les bornes facilement.
Ben, c'est un petit peu ça, puis c'est un autre point qu'il avait soulevé, puis d'ailleurs, qu'un autre prof que j'ai déjà mentionné, là, Gad Saad, de l'Université de Concordia, était présent aux audiences, a eu une heure de témoignage, abondant dans le même sens. Il y a un autre avocat, j'ai oublié son nom, malheureusement, mais qui est abondant dans le même sens. La liberté d'expression, là, c'est pas juste une valeur là, qui nous tient à cœur, puis on met sur un bout de papier, puis on dit « Ah, c'est donc beau, la liberté d'expression! » C'est un outil, c'est une condition sine qua non à arriver à des consensus dans la société pour régler des problèmes. Si on n'est pas capable d'aller au bout de nos idées, s'il y a des sujets qu'on peut même pas aborder parce qu'ils sont trop tabous, on s'en sortira pas. Et C16 venait baliser le langage. Et ça, c'est une dérive qui est dangereuse et on devrait utiliser beaucoup de précautions avant de s'embarquer là-dedans. Et encore une fois, Justin Trudeau, dans son projet de loi, je sais pas, je comprends qu'il est bien intentionné, mais j'ai l'impression que la loi va avoir des effets indirects qui n'auront pas nécessairement prévu, mais qui étaient très prévisibles.
Heureusement, on a la Cour suprême pour ça. J'ai l'impression que la Cour suprême va avoir besoin de se prononcer à un moment donné. Là. C'est clair qu'il y a quelqu'un qui va se faire amener en cour ou accuser de quelque chose de ridicule, puis que ça va être... Je peux pas voir qu'on va se mettre à emprisonner le monde parce qu'ils ont utilisé le mauvais prénom.
Ben, dans ces 16, il n'y a rien qui dit... Dans les modes de réparation, on parle de changer le comportement, de forcer l'utilisation d'un pronom. On parle d'une amende qui peut aller jusqu'à 250 000 $. On parle pas d'emprisonnement, mais la question, c'est... Mettons, là, ça, c'est l'exemple que Peterson a soulevé dans ce même débat-là. Si je paye pas l'amende,
ouais.
qu'est-ce que vous allez faire? Ouais. C'est intéressant, ça. Oui, le projet de loi prévoit pas de peine d'emprisonnement dans le code criminel, mais où est-ce que ça va s'arrêter? Moi, j'ai l'impression que c'est une limite qu'on a franchie, puis je me demande où va-t-elle s'arrêter?
L'autre côté de ce projet de loi-là, puis c'est là que je pense que c'est peut-être de cette intention-là que ça découle. Okay? Imaginez quelqu'un qui est trans, qui est à l'université ou qui est au travail, qui a un patron un peu colon, ou un professeur un peu préjugé, on va dire, là. Puis que toi, t'es trans, puis tu te présentes comme femme, mais ton prof ou ton boss, il insiste à t'appeler monsieur. Ça, en tant que trans, ça peut avoir des répercussions un peu difficiles. Ça peut causer toutes sortes de problèmes au niveau de la personne, puis de la relation qu'elle a avec ses supérieurs. Fait que je pense que c'est ce genre de situation-là qu'on essayait de régler. Mais c'est un peu comme, tu sais, essayer de couper une feuille de papier avec une hache. Tu sais, c'est... Tu fais plus de dégâts, tu vas couper la feuille, mais tu pourras pas t'en servir après, là. Puis j'ai l'impression que cette loi-là, c'est un peu ça. On essaye de régler un problème de façon unilatérale en faisant une espèce de loi beaucoup trop... C'est juste trop. C'est trop. C'est trop grand comme...
C'est-à-dire que, de façon générale, les lois arrivent après la culture. Ce sont des changements sociaux qui affectent beaucoup de gens qui ensuite se matérialisent sous forme de loi. Et alors là, on fait l'inverse. On espère qu'un changement législatif va changer la culture. Ça, c'est dangereux, parce que soudainement, la législation qui ne découle plus de la volonté populaire, mais elle lui est imposée par en haut. Tout le monde sait intuitivement aujourd'hui là, que discriminer, c'est pas une bonne affaire. Tu sais, je pense là, c'est...
Ouais. Mais la grande majorité des gens seraient d'accord, je pense.
Et les catégories de discrimination sont évidentes pour la plupart des gens, parce qu'on côtoie des gens qui sont comme ça régulièrement. Mais les deux dernières catégories qui ont été ajoutées forment une infime minorité de la population canadienne, moins de 0,5%. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit pour eux? Ou est-ce que, au contraire, ça va les ostraciser davantage, parce que les gens... mettons, là, t'es une personne, là, tu sais pas trop à quoi il en retourne. Quelqu'un se pointe dans ton bureau pour une job, mentionne que c'est une gender queer, pansexual, gender fluid, ou peu importe là, les 30 genres qu'ils ont inventé. Puis tu vois ça arriver, puis tu dis, oh, si je me trompe à un moment donné, là, je suis passible de passer devant le tribunal des droits et libertés. Hey, il y a peut-être bien du monde qui vont se poser la question deux fois. Attends, je peux-tu embaucher une autre personne?
Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais qu'est-ce que ça a causé dans mon département le jour où on a eu un employé qui a décidé de transitionner de homme à femme. J'ai vécu ça dans mon très proche passé. Finalement, ça a passé comme dans du beurre. Ça a pas été très difficile.
Ça, c'est déjà encadré par le cadre législatif. Mais là, ce qu'on ajoute, c'est autre chose.
Mais oui.
Ça par rapport.
Mais c'est parce que ça a été... C'est là que je veux en venir. Là. Ça a été tellement simple, OK? La personne, elle nous a dit, maintenant, je veux que vous m'appeliez par tel nom. On va dire Marie. Elle s'appelait pas Marie, mais on va dire, elle a dit, moi, je veux que vous m'appeliez Marie. Fait qu'on a dit, OK, on va t'appeler Marie. Est-ce que tu veux qu'on te réfère en tant que fille? Oui, j'aime ça que vous utilisez les pronoms féminins. Ça a pris 30 secondes de discussion avec son manager pour savoir qu'est-ce qu'elle voulait. Du jour au lendemain, elle est arrivée au bureau habillée en fille, puis elle s'est habillée en fille jusqu'à la fin de son contrat, puis il y a eu zéro problème. Zéro problème. Fait que je suis en train de me demander qu'est-ce que cette loi-là va régler. C'est quoi les problèmes que cette loi-là va régler? Je suis pas sûr que ça va régler grand-chose, parce que les endroits hostiles envers les personnes trans ou les personnes de genre alternatif, on va dire, ils vont pas aller travailler là. Ce n'est pas une loi qui va améliorer l'environnement de ces personnes-là. C'est comme tu dis, c'est le contraire. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ça, il va peut-être se poser la question à l'entrevue. Est-ce que je vais... Tu sais, Moi, mon expérience d'embauche, là, c'est que de toute façon, ces gens-là ne se présentent pas à l'entrevue comme trans. Ils vont souvent arriver, soit qu'ils sont trans puis que ça fait tellement longtemps qu'ils sont, qu'ils sont trans que, tu sais, ils sont capables de passer dans un genre sans que ça paraisse trop. Fait que tu te poses la question, mais tu sais, c'est pas vraiment... Je sais pas, mais peut-être que moi, je suis l'exception quand je fais mes entrevues, mais c'est pas le genre de question que je me pose. Fait que... Genre, moi, personnellement, j'en ai pas eu de ce problème-là.
Mais ce que j'aime de ton exemple, c'est que c'est exactement comme ça que ça se passe, de façon générale. Ouais. C'est-à-dire que les rapports sociaux sont socialement négociés.
Ben, oui.
C'est quelque chose... Moi, je vois comme ça, toi, t'es comme ça, puis par un échange consensuel, on arrive à trouver un mode d'interaction fonctionnel.
Ouais. Ouais.
Présentement, ce que le projet de loi fait, c'est qu'il vient court-circuiter l'espèce de négociation collective qui se fait au cas par cas entre chaque individu dans cette interaction. Il leur dit « c'est comme ça que vous allez vous comporter, faute d'enfreindre le code criminel puis de faire un crime haineux.
Ouais. »
C'est quand même assez radical comme idée. C'est de tout ça qu'on n'a pas parlé parce qu'on était trop occupé à parler de Adidas qui parlait en français et qui parlait en anglais.
Ouais.
Il y avait un débat, finalement. Oui. C16, on en avait presque pas parlé dans le Canada français l'année dernière. On en a presque pas entendu parler quand c'est devenu une loi. Puis là, finalement, on avait une opportunité, une autre opportunité d'en parler. Puis encore une fois, on a manqué le bateau.
La seule façon qu'on va en entendre parler, là, c'est s'il y a quelqu'un à l'UQAM qui se fait énerver. Puis là, ils en parleront en nouvelle. Mais autre que ça, là, on n'en entendra pas parler parce que c'est comme ça. On a des choses qui on se sent plus concernés. Déjà que ça s'est pas passé au Québec, souvent au Québec, on a tendance à se fermer les yeux jusqu'à temps qu'on se sente personnellement interpellé. Sinon, on n'écoute même pas.
Parce qu'il y a plusieurs autres lois, moi, que je vois dans la même lignée, comme là, il y a un autre projet de loi qui est sur la table. Moi, je l'appelle affectueusement le projet de loi Gomeshi, là, sur lequel on pourra sans doute revenir. Mais il y a plusieurs autres projets de loi là, dans la même lignée qui viennent... On dirait que dans leur fondement, cherchent à changer les mœurs.
Ouais.
Mais ça marche pas. À moins que ce soit par la répression. Ça fonctionne. Mais ça se fait par la peur. Est-ce qu'on veut vraiment avoir ça comme pays? Le Canada a une bonne réputation sur le plan des relations internationales. On peut-tu rester respectueux de la liberté d'expression? Parce que ce que Peterson nous avait dit l'année dernière en commission sénatoriale, c'est que on franchissait une ligne qu'on devrait peut-être pas traverser. Et malheureusement, on lui donne raison à l'université de Waterloo. Puis moi, je pense qu'on lui donne raison dans bien d'autres places qui sont pas encore sorties.
C'est juste une question de temps.
Ouais. Ben, c'est-à-dire que à chaque fois qu'une personne a une opinion qui, disons, divergente, immédiatement, là, puis Mme Shepherd a fait une sortie là-dessus. Elle voulait pas que ses supérieurs perdent leur emploi là-dessus. Elle disait non. Ça, c'est une tactique que les social justice warriors de la gauche font, là, de réclamer des pertes d'emploi, puis de réclamer que les gens voient leur vie gâchée pour le restant de leur jour. Elle dit non, moi, je veux juste qu'on puisse avoir une conversation civilisée dans une université.
Mm-hmm.
Donc, moi, je vois sa démarche comme étant très pure et très fidèle à sa vision qu'une université doit être un lieu de dialogue libre et éclairé.
Je vous rappelle, tous les endroits où vous pouvez nous rejoindre, il y a notre site web québécois.ca, la page Facebook Québécois Balado, et il y a aussi, bien sûr, notre numéro 1-800-188-458-4443. 1-888-458-4443. En temps passant, un petit bonjour à David Scott qui nous a laissé un beau message cette semaine. Fait que, Charles, merci d'être là. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.